Alors nous allons traiter maintenant d'un autre sujet tout à fait différent des autres sujets que nous avons traités jusqu'à présent. C'est la vie spirituelle du couple. Et peut-être curieusement, c'est le thème qui me coûte le plus. C'est le thème avec lequel je suis le moins confortable. Pourquoi ? Parce que premièrement, je ne vous connais pas les uns les autres, de votre chemin de vie spirituelle, votre ou le non-chemin, parce que même si la plupart d'entre vous vous êtes baptisés, mais vous n'avez pas forcément transformé l'essai, c'est-à-dire pris à cœur ce baptême et cette rencontre avec le Seigneur, d'autres oui. Et puis la question de la vie spirituelle est une question qui est compliquée. C'est compliqué parce que dans mon métier, entre guillemets, on a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Le résultat, par exemple, d'une retraite, c'est le fruit de la grâce. C'est-à-dire, ce que vous allez retenir de ce temps que vous avez vécu à l'abbaye, c'est le fruit de la grâce. Et donc, c'est d'autant plus complexe que je ne sais pas ce que vous retiendrez des pauvres paroles que je vous ai dispensées durant ces enseignements, et ce que le Seigneur a pu vous dire dans la liturgie, dans sa parole, et de là où vous en êtes dans votre vie de foi. Cependant, il me paraît très important d'aborder la question de la vie spirituelle du couple. Parce que la vie spirituelle du couple, ça touche à l'intimité, au cœur du couple. Dans le parcours que j'utilise pour préparer au mariage, je pose la question, est-ce que vous êtes un soutien pour la vie intérieure et spirituelle de votre conjoint ? Intérieur et spirituel, c'est pas pareil. Intérieur, c'est tout ce qui est la vie des émotions, la vie de, on veut dire, de la psychologie. Et c'est important parce que les émotions disent quelque chose de nous, à tel point que Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, que vous connaissez bien, dit que ces émotions transmettent quelque chose de notre intimité avec Dieu. Les émotions ne sont pas à mettre de côté, ni à mettre sous le boisseau, mais au contraire, à les prendre au sérieux et de dire, ben, ça dit quelque chose de notre rencontre avec le Seigneur. Ça indique, à travers consolation et désolation, ça indique notre rapport avec Dieu. Donc la question de la vie intérieure est importante, mais la vie spirituelle, c'est autre chose. La vie spirituelle dit l'accueil d'une transcendance, l'accueil d'un autre. Et là, c'est là où c'est parfois complexe, parce que chacun d'entre vous, bon, la plupart vous êtes baptisés, etc., mais vous avez eu un contact avec la foi catholique assez différent. Ça peut être un contact assez social, à travers les établissements scolaires, par exemple, catholiques que vous avez fréquentés, pour un certain nombre d'entre vous, à travers vos familles, où vous sentez que vous êtes né dans une famille catholique, grosso modo, vous êtes catholique, voilà, comme plupart d'autres sont nés dans une famille hindoue, ils sont hindous, voilà. Mais vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément approprié les dimensions de cette vie spirituelle. D'autres, au contraire, ont fait une vraie rencontre avec le Seigneur. C'est-à-dire, le croyant n'est jamais seul. Le croyant, c'est celui qui a expérimenté à tâtons une présence. Et je trouve parfois ce qui est dommage dans dans ce qu'on transmet de l'Église catholique, c'est qu'on transmet plus une morale qu'une spiritualité. On transmet plus de permis interdits qu'une rencontre. Et je trouve que c'est dommage parce que ça ne met pas le curseur au bon endroit. La question de la rencontre avec Dieu, elle est cruciale. Et pour vous qui vous préparez au mariage, et peut-être qu'ils remettaient un pied dans l'église. Moi, j'accompagne beaucoup un nombre de couples. Voilà, ils ont été baptisés, catéchisés, ils ont eu tous les stempels, tous les tampons, etc. C'est possible et imaginable, dans les écoles catholiques, etc. Au moment de la vie étudiante, bon, j'étais au moyen d'étudiants, on voit bien que c'est pas le cœur de la vie spirituelle qui est le moteur de la vie étudiante. Mais bon, et puis arrive le mariage. Le mariage, vous rentrez dans une transmission. Transmission des gènes, transmission d'un patrimoine, transmission d'une foi. Et donc, c'est autre chose, vous jouez dans une autre cour. Du coup, vous êtes interrogé sur votre propre foi. Et le fait de choisir de vous marier à l'église, ça dit quelque chose de la transmission de ce que vous avez reçu. Maintenant, je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait, ce discours-là que j'entends souvent, nous avons les mêmes valeurs. Je ne suis pas très à l'aise parce que la vie de foi, ce n'est pas d'abord adhérer à des valeurs. La vie de foi, c'est adhérer à une personne, la personne de Jésus. Et c'est par son Esprit Saint que nous découvrons qui est la personne du Christ. Et j'allais dire, il y a beaucoup de pratiquants non-croyants. C'est des personnes qui pratiquent l'Évangile, qui sont des bonnes personnes, des hommes et des femmes de bonne volonté, mais qui n'ont pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, qui n'invoquent pas une transcendance. Où est-ce qu'elle a parfois la difficulté de ne pas invoquer une transcendance? C'est que du coup, le couple se transforme dans le face-à-face de psychologie blessée. Nos psychologies sont blessées, la mienne, la vôtre. Et du coup, s'il n'y a pas une ouverture à plus grand que nous, c'est le face-à-face de psychologie blessée. Le « tu qui tue », « tu as fait ceci », « tu as fait cela ». Et la vie spirituelle, justement, ouvre à quelque chose de plus grand. Le croyant n'est jamais seul. Il se sent habité. Et la vie spirituelle n'est pas d'abord des valeurs, n'est pas d'abord une morale, ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est d'abord une rencontre. C'est d'abord une expérience. Et c'est là où les mots me manquent. Les mots me manquent parce que cette expérience, chacun la vit de façon absolument intime. Où vous en êtes de votre expérience du Seigneur, où vous en êtes de votre accueil de l'Évangile dans votre vie, vous remettez peut-être un pied dans l'Église à l'occasion de votre préparation au mariage, parce que vous sentez que là se trouve le fondement de votre vie, là, il y a des bases sûres, c'est ce que vous voulez transmettre à vos enfants. Et par la même occasion, j'en profite pour dire que le fait de se marier à l'Église implique de baptiser et catéchiser ses enfants. Sinon, on ne peut pas se marier à l'Église. C'est quelque chose d'une logique. Ce que vous voulez pour vous, comment ne pas le vouloir pour vos enfants? Et donc, c'est vrai que c'est un thème qui est compliqué. En tout cas, j'ai parfois du mal à le traiter parce que je me dis, c'est tellement... Je veux dire, c'est presque plus intime que la relation charnelle des époux. C'est quelque chose qui a à voir, et certains couples me disent on n'arrive pas à prier ensemble parce qu'on est très pudique, mais cette pudeur ne s'applique pas beaucoup au pyjama, par exemple. Elle s'applique plus aux Ave Maria, mais bon, elle s'applique à cette dimension de, parce que c'est vrai, quelque chose le plus intime de l'intime, c'est la vie de prière. Et moi, je vous questionne, où en êtes-vous de votre vie de prière à deux? Pourquoi je vous questionne là-dessus? Parce que la vie de prière fait qu'on n'est pas jugé, on ne se sent pas jugé. De s'adresser au Seigneur, d'introduire une transcendance dans vos vies, fait que ça ouvre la possibilité à un non-jugement et à un pardon. Nous ne sommes pas simplement nous deux, nous sommes nous trois. Et à travers le mariage à l'église, vous voulez dire que vraiment vous avez ce désir, en tout cas, de par votre famille, que ce soit social, ça ne me dérange pas, mais je me dis, est-ce que vous ne pouvez pas pousser un cran plus loin ? Bon, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous avez fait des études supérieures, mais je trouve qu'il y a un gap entre votre professionnalisation qui vraiment est là au rendez-vous et vous avez travaillé dur pour avoir les compétences que vous avez et la connaissance de votre foi. La foi, elle est dans l'intelligence. C'est élever l'intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles uniquement aux cinq sens. La foi, c'est aussi une connaissance. Comment croire sans connaître ? Comment connaître sans croire ? Et donc, je trouve que c'est... je vous invite à ce que ce mariage à l'église ne soit pas un one-shot, c'est-à-dire quelque chose d'une sorte de moment de spiritualité, et que l'autre moment de spiritualité soit votre enterrement, par exemple. Bon, ce serait un petit peu dommage. Ce sera aussi un moment de spiritualité, vous serez moins acteur. Et donc, du coup, de se dire que, où est-ce que vous en êtes de votre formation chrétienne ? On sait bien la question de la formation dans les entreprises, c'est quelque chose qui est permanent. Il y a non seulement votre formation initiale, les écoles, la faculté que vous avez suivie, etc. Mais on voit bien que dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, la formation, elle est continue. Il en va de même dans la vie spirituelle. La formation, elle est continue. C'est pas juste la formation initiale que vous avez. Si vous en êtes resté au catéchisme de votre première communion, alors que par ailleurs, vous êtes ingénieur, vous êtes avocat, vous êtes comme ingénieur commercial, vous êtes, voilà, des compétences que vous avez, vous êtes notaire, vous êtes juriste, vous êtes... Parce que, où est le problème ? C'est que celui qui a grandi, c'est-à-dire celui qui a grandi en formation professionnelle, juge l'enfant de la première communion. Ça, c'était bien quand j'étais enfant. Mais maintenant... C'est plus vraiment d'actualité, puisque moi je suis ingénieur, je suis avocat, je suis notaire, je suis graphiste, voilà, je suis commercial, j'ai toute une compétence, je suis auto-entrepreneur, voilà. Et si vous ne prenez pas au sérieux la formation spirituelle, et c'est vrai que l'Église catholique offre, une étendue au niveau intellectuel impressionnante, un compendium intellectuel qui peut vraiment élever vos esprits. Et du coup, interrogez-vous durant cette préparation au mariage, au niveau de vos lectures, est-ce que vous avez pris le temps de lire, de travailler ensemble un certain nombre de choses, au niveau de votre formation, il y a beaucoup de choses qui existent en podcast, etc., sur Internet, sur le couple. Mais aussi de votre connaissance de Jésus. Est-ce que vous avez lu déjà un évangile en entier ? Dans les couples que j'accompagne, je leur demande de lire l'évangile de Saint-Luc en entier. Parce que justement, que cette préparation au mariage ne soit pas juste la réponse à des valeurs ou au schéma familial. Tout le monde dans notre famille se marie à l'église. Très bien, je ne peux pas être contre. Mais vous sentez que, moi comme prêtre, je me dis, oui mais où est-ce qu'ils en sont de cette connaissance de Jésus ? Où est-ce qu'ils en sont à l'âge adulte, à l'âge que vous avez, de cette expérience de foi ? Où est-ce qu'ils en sont de leur vie de prière ? Où est-ce qu'ils en sont du pardon ? Parce que le pardon et la prière sont liés. Pardon et prière, c'est lié. Et donc, le fait d'être de pardonner, c'est aussi parce qu'on a estimé, on a expérimenté qu'on a été soi-même pardonné. Et l'expérience qui vous a été proposée hier soir, à travers la veillée de prière et d'adoration, et de réconciliation, c'est justement cette expérience qui est aussi une expérience de couple, de fait de se pardonner. L'accueil d'une transcendance, et encore une fois, quand je dis l'accueil d'une transcendance, ça peut paraître un peu évaporeux, un peu pas très concret, mais de façon plus claire, peut-être plus concrète. L'accueil d'une transcendance, par exemple, est-ce que vous avez une croix? Est-ce que vous aurez une croix dans votre habitation, dans votre domicile? Est-ce qu'il y aura un coin prière? Est-ce que... Oui, l'accueil d'une transcendance, c'est... ça peut être tout simple. Moi, je suis un adepte de la foi du tangentiel, c'est-à-dire, vous savez, la tangente à un cercle, c'est la droite, ceux qui ont un peu fait de physique, etc. C'est la droite qui touche le cercle en un point. Et si cette droite, voilà, c'est le cercle, c'est nous, et cette droite, c'est Dieu, parfois, il ne faut pas beaucoup de choses pour affirmer la transcendance, mais juste la présence d'une croix, d'une icône, d'un coin prière, et pourquoi pas d'un certain nombre de rituels que vous avez mis en place. Je pense particulièrement à des rituels assez simples, comme la bénédiction du repas. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place ce rituel de bénir le repas le dimanche, qui est le jour du Seigneur, même si vous avez vos familles ou vos amis invités? Est-ce que vous êtes prêt à bénir le repas? Oui, il y a parfois une fausse pudeur, une mauvaise pudeur, qui n'aide pas. Je ne veux pas imposer, je ne veux pas gêner, non. Non, tu ne gênes pas. Les gens viennent chez toi, ils accueillent comme vous venez chez nous ici, chez les frères, ben ils accueillent comme ça fonctionne. Nous, on bénit, on rend grâce, etc. Bon, on met un peu le taquet un peu loin, etc. Parce que voilà, on est des pros du truc. Mais, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais où est-ce que sont les points de rencontre avec la présence de Dieu dans vos vies? Quels sont les rituels concrets? Je pense à la bénédiction du repas. Moi, j'invite, moi, je m'appelle, j'accompagne quand ça un couple, catholique tous les deux, mais de par tradition, dans les écoles catholiques, baptisées, tout y quanti, bon. Mais ils disent eux-mêmes, mais nous, on n'est pas des pratiquants. On n'est pas des pratiquants ou occasionnels, les grandes fêtes. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne feriez pas un geste tout simple de vous bénir, comme ça, de tracer la croix sur le front de l'autre avant de vous coucher. C'est-à-dire que vous redites que l'autre est un don de Dieu. Vous redites que l'autre est une grâce. C'est important ça, pourquoi ? Ça redimensionne votre couple, ça oxygène votre couple. C'est pas juste le tu qui tue, j'ai raison, t'as tort, et du coup l'affrontement de volontés qui veulent s'imposer. Vous vous remettez dans l'humilité. Dans l'humilité l'un face à l'autre. Le combat spirituel, c'est le combat pour l'humilité. C'est le combat que vous et moi, nous avons à livrer. Tous, nous avons un combat spirituel. Tous, nous avons à accueillir l'autre comme un don. Tous, nous avons à redécouvrir l'autre comme une grâce pour notre vie. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas spontané. Vous comprenez bien que découvrir l'autre comme une grâce pour sa vie, ça demande des moments où on remet ça dans la prière, on remet ça dans une expérience de foi, dans une pratique religieuse. La formation est importante, mais la pratique aussi est importante. Parce que la pratique, et c'est vrai que par le mariage, vous vous enracinez dans une transmission, et entre autres la transmission de la foi. Et du coup, beaucoup de couples que j'accompagne, comme la majorité d'entre vous, j'imagine, sont des SPF, sans paroisse fixe. C'est-à-dire qu'ils vont chacun, bon, quand on est jeune pro comme ça, à l'âge que vous avez, vous allez sur les week-ends, bon, éventuellement dans une messe, dans tout ça. Mais je pense que c'est bien de s'enraciner. C'est bien de s'enraciner. De dire, voilà, là où on va habiter, et même le lieu où on va habiter, est-ce qu'on prend comme critère de discernement du lieu où on va habiter, que ce soit un lieu où il y ait un soutien spirituel ? Et du coup, posez-vous la question, où est-ce qu'on va s'enraciner concrètement dans une vie de foi, dans un lieu d'église, qui va nous porter, qui va porter nos enfants. Parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes impliqués. Vous savez, rien, c'est important, rien dans l'église est solitaire, même si tout est personnel. Mais rien n'est solitaire. Je ne peux pas dire « je » sans dire « tu ». Je ne peux pas dire « tu » sans dire « nous ». Et donc, même votre mariage, qui est un acte éminemment personnel, mais ce n'est pas un acte solitaire, vous embarquez dans votre oui vos futurs enfants, vos familles, vos amis. Il y a un corps auquel vous appartenez par le baptême. Vous redites oui à cette appartenance au corps qu'est l'Église, à cette communauté des croyants qui est imparfaite comme nous sommes imparfaits. Mais je trouve que en tout cas, de redécouvrir cette grâce d'appartenir à un lieu qui vous porte, et qu'aussi à un lieu que peut-être vous serez amené à porter après. C'est un lieu où vous serez amené à donner comme couple, à témoigner. Vous vous rappelez, quand on a vu hier matin l'échange des consentements, il y avait la possibilité de prendre, acceptez-vous de prendre votre place dans l'Église et dans le monde. Est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous acceptez que votre couple soit d'une certaine manière rayonnant autour de vous et rayonnant dans la foi? Je trouve que c'est quelque chose qui est très beau, qui invite à se poser des vraies questions. Qu'est-ce que j'attends de l'Église, mais qu'est-ce que l'Église attend de moi? Vous connaissez la phrase célèbre de Kennedy, qui disait « Ne te demande pas seulement ce que ton pays peut faire pour toi, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays ?» Eh bien, pareil pour l'Église. Qu'est-ce que l'Église attend de vous? Vous attendez quelque chose de l'Église? En frappant à la porte de l'Église par le sacrement du mariage, vous attendez quelque chose. Et bien moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Et à donner de différentes manières, selon vos charismes, selon vos talents. Ça peut être à donner de façon sociale, parce que là, évidemment, la charité, l'attention aux plus pauvres fait partie de l'ADN de l'Église. À donner au plan peut-être plus spirituel, en vous impliquant ensuite, pourquoi pas, la préparation au baptême, dans les préparations quand vous aurez un peu plus d'heures de vol, parce que vous êtes un peu jeune, mais préparation au mariage. Posez-vous la question, la vie chrétienne, c'est une logique de don. Et non pas une logique de dû. Qu'est-ce que je peux donner que je n'ai pas donné? Qu'est-ce que je peux offrir que j'ai peut-être gardé encore pour moi? De don et de pardon. Parce que c'est vrai que ça fait partie de la vie spirituelle que la question du pardon. Le pardon, vous faites la différence entre pardon et réconciliation. C'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Pardon et réconciliation. Réconciliation, faut être au moins deux. Mais parfois, c'est pas possible. Parce que l'autre ne reconnaît pas la difficulté. Il ne voit pas. On voit des personnes un peu, qu'on appelle toxiques, qui, eux, sont victimes et vous êtes coupables. Et ils ne reconnaissent pas jamais leur part de responsabilité. Il n'y a pas de réconciliation possible. En revanche, le pardon est toujours possible. Le pardon est quelque chose de personnel. À quoi est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? Les injustices qu'on a pu subir dans nos familles, dans notre vie professionnelle, auprès de nos amis, ou même peut-être dans notre couple. À quoi est-ce qu'on voit qu'on a pardonné? C'est que on voit celui qui nous a fait du mal paisiblement. On est apaisé. Et puis plus encore, non seulement on est apaisé, mais on se réjouit du bien qu'il peut vivre et on s'attriste du mal, de la souffrance qu'il affecte. Et donc, pardonner fait partie, dans la vie spirituelle du chrétien, de quelque chose qui est tout à fait lié à la vie de prière. Prière et pardon sont liés. Parce que je prends conscience que moi-même, j'ai besoin d'être pardonné par le Seigneur. Moi-même, j'ai besoin d'une miséricorde. Parce que je ne suis pas parfait. Parce que voilà, j'ai des tas de défauts. La sainteté n'est pas la perfection. Ce n'est pas l'impeccabilité, la sainteté. La sainteté, c'est la perfection dans l'amour, c'est-à-dire dans l'humilité. Et donc, nous en sommes tous capables. Être impeccable, je ne le suis pas. Vouloir grandir dans l'humilité, vouloir grandir dans l'accueil de l'autre tel qu'il est, et j'ai bien aimé l'homélie du père Maximilien, qui je trouve était très pertinente pour votre préparation au mariage, eh bien, vouloir grandir là-dedans, c'est un lieu de sainteté. Vous vous rappelez que, au fond, à travers la vie spirituelle, vous vous redécouvrez comme un don de Dieu, mais à travers la vie spirituelle, vous ouvrez à plus grand que vous. À travers la vie de prière, vous ouvrez à plus grand que vous. Posez-vous la question, quel temps de vie spirituelle nous allons prendre? Qu'est-ce qui peut être s'oppose à la vie spirituelle? Je vois deux choses qui s'opposent. Un, le perfectionnisme. Deux, l'activisme. Perfectionnisme et activisme s'opposent à la vie spirituelle, s'opposent à la dimension contemplative de nos vies. Parce que la vie spirituelle, il y a une dimension contemplative. C'est accueillir la réalité comme un don, comme un cadeau, comme une grâce, et comme une action de grâce. La contemplation, ça nous pousse à l'émerveillement, et l'émerveillement nous pousse à l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est remercier. Est-ce que vous remerciez ensemble? Est-ce que vous vous remerciez l'un pour l'autre? Est-ce que vous rendrez grâce au Seigneur l'un pour l'autre? Et donc oui, c'est vrai que la vie spirituelle a des ennemis. Activisme et perfectionnisme sont les ennemis de la vie spirituelle. Parce que l'activisme, c'est quoi? C'est vouloir mettre dans 24 heures plus que 24 heures, c'est-à-dire blinder le temps et faire que les actions que je mène, les projets que je mène soient supérieurs à ma vie de foi, ce qui fait que je ne laisse plus de place pour la vie de foi dans mon couple, pour une dimension transcendante, pour un émerveillement. Je ne laisse plus de place. Parce qu'il n'y a plus de place, parce que j'ai tellement blindé l'agenda qu'il n'y a plus de place. Et la vie, le perfectionnisme, c'est un ennemi de la vie spirituelle, parce que le perfectionniste, c'est celui qui voit toujours le point noir dans la page blanche. Celui toujours qui voit ce qui ne va pas. Or, quand on est croyant, on est dans une confiance. Et non seulement une confiance, mais une bienveillance. Quand on est croyant, on est dans une bienveillance l'un envers l'autre. Oui, je vois tes défauts, je vois tes difficultés, mais je vois aussi tes charismes et je vois tes talents. Et donc, le perfectionnisme, certainement, s'oppose à la vie spirituelle, à la vie de foi, parce que c'est quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, nous enferme sur nous-mêmes, enferme l'autre, ne laisse pas la place à la fragilité. Est-ce que vous êtes capable de vous dire l'un à l'autre vos fragilités? Est-ce que vous êtes capable de vous dire l'un à l'autre vos points faibles? Le mariage, c'est l'union de deux pauvres. Et donc, de se dire, voilà. Il y a des choses où j'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que le fait d'être avec l'autre, ça m'a tiré vers le haut? Est-ce que le fait d'être avec l'autre, ça m'a encouragé dans une plus grande dynamique spirituelle ou découragé? Ça m'a encouragé ou découragé dans mes projets? Oui, je pense que cette question de la vie de foi, elle irrigue toute notre vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que pour le chrétien, la vie de foi irrigue. Ça vient donner à toute la vie, que ce soit la vie, on a vu parler de la vie professionnelle, du rapport à l'argent, de la sexualité, des familles, du rapport aux familles, etc. Ça vient irriguer, ça vient illuminer toutes ces réalités. Ça vient redonner sens à toutes ces réalités. Et si vous êtes ici, c'est bien que vous êtes en quête de sens. C'est bien que vous êtes en quête de quelque chose qui donne une orientation à votre couple. Oui, je pense que c'est important de vous poser la question déjà, est-ce que vous avez pris le temps de prier ensemble? Est-ce que vous voulez faire un pas dans ce sens? Et parfois, encore une fois, il y a beaucoup de pudeur là-dessus. Mais de pudeur qui sont parfois mal placées. Voilà, prier ensemble, c'est se mettre ensemble face à quelque chose de plus grand que nous. C'est remercier, c'est accueillir l'autre comme un don. Et puis, posez-vous la question, où est-ce que nous en sommes dans cette... Dans les rituels, qu'est-ce que nous voulons mettre en place pour que y ait une certaine présence du sacré dans notre vie? Quelque chose qui nous dépasse. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Qu'on ne soit pas juste le face-à-face de psychologie blessée, mais qu'on s'ouvre à plus grand, qu'il y ait une sorte de respiration, une oxygénation plus grande que nous-mêmes. Parce que le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. C'est ça la définition du chrétien. Il porte en lui-même plus que lui-même. Il découvre que, comme dit saint Paul, nous portons dans des vases d'argile, c'est-à-dire nos humanités, des trésors. La foi chrétienne, c'est la foi, nous sommes les, notre religion, la religion chrétienne, c'est la religion du vertige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C'est cette intuition, cet attaton, on perçoit que en nous et dans notre couple, il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes qui se joue. Il y a quelque chose de supérieur à nous-mêmes qui se joue. Et donc on veut ouvrir, par la prière, c'est ouvrir à une transcendance, c'est ouvrir à une espérance, parce que c'est ouvrir à une espérance, clairement. Parce que le manque de vie spirituelle, c'est le manque d'espérance. On ne peut espérer que ce qu'on peut produire à nos propres forces, avec nos petits points. Mais nous, comme chrétiens, nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons que même si nous sommes dans une fragilité, nous pouvons continuer à espérer, voire espérer contre toute espérance. L'espérance fait partie de la vie chrétienne. Elle irrigue la vie chrétienne. Et le manque d'expérience, disons, d'expérience religieuse, le manque de foi, le manque de pratique, le manque d'irruption du sacré dans vos vies, c'est synonyme d'un manque d'espérance. C'est-à-dire que vous dites, je ne peux que ce que je peux faire à vue humaine. Non, nous ne croyons pas ça. Nous sommes la religion du vertige. Parce que nous sommes la religion des médiations. Nous croyons que dans la médiation qu'est le conjoint, il y a la présence de Dieu. C'est pour ça que la relation avec Dieu ne s'oppose jamais à la relation avec le conjoint. La relation avec Dieu est dans la relation avec Dieu. C'est ça le sacrement. La relation avec Dieu, elle est là dans votre couple. Si à un moment donné, il y a une opposition, c'est que vous mettez mal le curseur. Le curseur n'est pas à sa place. Si entre aimer Dieu et aimer son conjoint, il y a une opposition, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas bien compris le système, comment ça fonctionne. C'est justement, nous sommes la religion de l'incarnation. Donc, dans la personnalité, la personne humaine qui est le conjoint, dans cet amour-là, se donne l'amour de Dieu. À tel point que c'est un sacrement, un signe visible d'une grâce invisible. Alors c'est vrai que ça met tout de suite le curseur très haut peut-être trop haut pour certains d'entre vous, mais peu importe, une retraite c'est fait pour vous ouvrir vers plus grand, pour vous tirer vers le haut, peut-être vous ouvrir d'autres horizons que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Une retraite c'est fait justement pour vous inviter à une espérance plus que vous-même, plus d'aller au-delà de vos forces, de vos compétences, de vos professions. Nous sommes dans l'humilité. Demandons au Seigneur une grâce. Et la vie matrimoniale, telle que nous la concevons dans le cadre du mariage à l'Église, la vie matrimoniale, c'est vivre de la grâce. C'est là où, j'allais dire, ça nous échappe. Parce que la grâce, elle ne vient. La rencontre avec le Seigneur, c'est pas d'abord des valeurs. Je vous l'ai dit, c'est pas d'abord des valeurs. C'est pas d'abord le permis, l'interdit. Je n'ai pas donné ma vie pour des valeurs. J'ai donné la vie pour une personne. La personne du Christ. Mais cette rencontre avec le Seigneur, elle est le fruit de la grâce. Elle est le fruit d'un don, d'un cadeau. Alors, grâce qu'on peut demander le jour de vos noces, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à demander des grâces. N'hésitez pas à vous ouvrir Le ciel s'ouvre pour vous ce jour-là. Mais c'est vrai que quand j'accompagne les couples, etc., c'est une de mes plus grandes craintes, on peut dire, c'est est-ce qu'ils ne vont pas en rester là où ils sont, quoi. Et en même temps, je fais, bon, à travers mes pauvres paroles, mais j'essaye de les emmener plus loin qu'eux-mêmes. Mais comment les ouvrir à plus grand? Comment les ouvrir à plus grand? Être prêtre, c'est être pauvre. Parce que justement, la grâce ne dépend pas de nous. Ce sont nos pauvres paroles qui peuvent être le vecteur, mais la rencontre, elle n'est pas de nous. On n'est pas dans un, je sais pas quoi, dans un, parfois des dynamiques de groupe, on va se mettre en cercle, on va, je crois, non, c'est pas ça la foi. C'est pas l'autoconviction, c'est pas de l'autopersuasion, c'est pas ça. Laissez une chance au Seigneur de vous rejoindre et de vous emmener plus loin et de faire de vous des témoins. En vous mariant à l'Église, vous dites, je laisse une chance au Seigneur d'ouvrir mon cœur à une rencontre. Cette rencontre, elle sera selon ce que vous êtes. C'est tellement unique. C'est pour ça que l'Église ne demande pas une conversion quand on se marie, que si on n'est pas de tradition catholique, etc., si on n'est pas baptisé dans l'Église, ne demande pas la conversion. C'est complètement aberrant. Je trouve. À l'occasion du mariage, on veut renforcer le truc. Non, ça c'est non. On veut servir du mariage comme un levier pour augmenter les statistiques. Mais non, je n'ai pas donné ma vie pour des statistiques. Mais justement, mais dans le mariage à l'Église, il y a cette invitation à quelque chose de plus grand que vous-même, et vous allez l'expérimenter. D'où l'importance de la préparation de votre célébration, le choix des textes. Juste un petit conseil pour le choix des textes. Le choix des textes, c'est, au fond, des textes qui disent qui vous êtes, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez annoncer à ceux qui sont dans cette célébration, dans cette cérémonie. Qu'est-ce que vous voulez dire de vous-même à ceux qui sont à vos côtés? Vers quoi vous voulez aller à travers les textes que vous avez choisis? Vers quoi vous voulez aller? Ça, les textes. Le choix des textes, c'est les choix importants. Parce que la parole de Dieu, nous le croyons, est une parole vivante qui nous accompagne et éclaire notre vie en fonction des étapes de notre vie, dit quelque chose à notre vie différente selon l'étape où nous sommes, parce qu'elle nous accompagne selon la progression de nos humanités. Par exemple, la parabole du semeur. Vous connaissez certainement, pour un certain nombre d'entre vous, la parabole du semeur. Et encore une fois, dans les choix des textes, juste un petit côté technique, etc., toute la Bible vous est ouverte. Toute la Bible vous est ouverte. Je dis ça parce que parfois, dans les paroisses, on donne une sorte de livret avec des textes. Ce qui fait qu'on entend, grosso modo, toujours la même chose, quoi. L'amour machin, l'amour prend patient, l'amour machin, les noces de Cana, machin, construire sur le roc, machin, bon. On peut pas être contre, évidemment, c'est la parole de Dieu, voilà. Mais toute la Bible vous est ouverte. Je sais pas, je vous invite à innover pour innover, mais justement, cette connaissance, cette proximité de la parole du Seigneur vous donnera peut-être de choisir d'autres textes qui exprimeront à l'assemblée devant laquelle vous serez, et exprimeront l'un face à l'autre ce que vous voulez porter. Du coup, dans le choix des textes, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux transmettre? Quel est le charisme de notre couple? Quel est le don de notre couple? Est-ce que c'est l'accueil, par exemple? Est-ce que c'est le soutien? Est-ce que c'est la compassion? Est-ce que c'est l'annonce de l'évangile? Est-ce que c'est l'accueil du plus pauvre, le soutien à la personne qui est en précarité? Quel est le charisme de votre couple? Quel est le don que le Seigneur vous a fait en étant ensemble? Et de là, vous choisirez votre parole. La parole exprimera qui vous êtes. Et exprimera à l'assemblée ce que vous voulez vivre. Et vous en ferez mémoire, vous la relirez pour vous dire, voilà, au jour de nos noces, voilà ce que nous voulions vivre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà mes amis, ce que je voulais vous dire. Peut-être vous avez des questions à poser sur la vie spirituelle. Je ne prétends pas épuiser la question, mais oui, je vous en prie.
Tout à l'heure, vous avez parlé du pardon.
Oui.
On peut élargir le sujet à une autre sphère que celle du couple, mais est-ce qu'on doit vraiment pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas demandé pardon et qui ne reconnaît pas ça?
Alors, est-ce qu'on doit, votre question, c'est de dire, est-ce qu'on doit pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas demandé de pardon ou qui ne reconnaît pas sa faute? Typiquement, la personne toxique, par exemple, la personne qui vous culpabilise, la personne qui vous a dit que vous étiez nul, la personne qui était injuste avec vous, etc. Et souvent, quelqu'un de proche. C'est la différence entre pardon et réconciliation. Réconciliation, il faut être deux. Pardon, c'est une démarche personnelle. L'autre ne reconnaît pas, bon, pour X raisons. Mais moi, je veux, au nom du Christ, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme nous répétons dans notre Père. Nous voulons laisser à l'autre une autre chance. Nous voulons ne pas enfermer l'autre dans ses défauts. Nous voulons d'une certaine manière, nous apaiser aussi. Parce qu'une des vertus du pardon, c'est l'apaisement. L'autre a son chemin, il n'arrive pas à reconnaître ses problèmes, c'est son problème. c'est pas à toi de voir, c'est à lui de voir. Il n'a pas la lumière, il n'a peut-être pas l'humilité. On ne va pas se faire juge des intentions. Mais pour ce qui tient à moi, que je puisse penser à l'autre paisiblement et que je puisse lui désirer du bien, c'est ça le signe du pardon. Et ça, c'est dans un travail intérieur. Et c'est un travail dans la prière. Parce que je prends conscience aussi que moi-même, j'ai besoin d'être pardonné. Donc, cette question du pardon est très intimement liée à la vie spirituelle. Et un manque de vie spirituelle fait qu'on laisse des béances ouvertes parce qu'on a été victime d'injustice dans nos familles, dans ceci, etc. On était tous enruminés, on est en train d'en vouloir, de râler, de voire de désirer du mal pour l'autre. Au contraire, tu sens que tu as pardonné parce que dès qu'il vit quelque chose de bon, tu te réjouis. Et tu lui désires de vivre des choses bonnes. Je désire que toi tu vives des choses bonnes, même si tu m'as fait du mal, même si tu as été injuste. D'autres questions? Oui.
Au sujet de l'enseignement en paroisse, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la proximité géographique avec des paroisses qui sont parfois un peu moribondes? Ou bien alors des...
Est-ce qu'on a le rôle joker?
Des affinités spirituelles, des liturgies...
Alors, je pense qu'aujourd'hui, est-ce que je vois le rôle joker? Parce que c'est vrai que dans les paroisses, c'est quand même très pauvre. Ça dépend, vous choisissez ce qui vous soutient et ce qui soutient votre famille. Peut-être quand vous serez assez solide, quand vous aurez transmis, peut-être vous serez un soutien pour votre paroisse qui vous dit, bon, est moribonde, etc. Comme beaucoup de paroisses, je veux dire, parce que les personnes sont déjà souvent âgées, ces personnes, on n'a pas la qualité de la liturgie qu'on a ici. Ici, on a une qualité liturgique extraordinaire, je veux dire, une qualité de chant, etc. Tout ça, ce n'est pas au rendez-vous dans les paroisses. Mais nourrissez-vous. Vous avez besoin, au début de votre vie matrimoniale, nourrissez-vous. Choisissez quelque chose qui vous porte. Ensuite, vous porterez. J'ai mis un autre doigt qui... Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une certaine pudeur par rapport à l'expression de la foi? Parfois, premièrement, il y a des pudeurs mal placées. Un. Deux, vous êtes appelé comme couple à partager l'union intime des époux, etc., qui fait que vous vous dévoilez, vous vous dénudez face à l'autre. Mais le dénudement n'est pas seulement corporel. Le dénudement est aussi spirituel. Et c'est vrai que ce que vous dites, c'est juste. C'est que j'entends beaucoup de gens dire « Nous avons trop de pudeur. » Parce que derrière ça, moi j'entends « Nous n'avons pas assez de confiance l'un envers l'autre. » J'entends ça. On pense être jugé. On pense que l'autre va se moquer de nous si on va prier. Si on va pas. On pense être jugé par l'autre. Or, dans la prière, on ne juge pas. Donc, une étape de franchissement d'un couple qui fait que vraiment c'est qu'on peut exprimer ensemble face au Seigneur, face à une bougie, à des choses toutes simples, une bougie, une icône, etc. On peut exprimer nos intentions, on peut rendre grâce, on peut se demander pardon.